la psilocybine, cette particule magique dont on parle de plus en plus. Vous en avez peut-être entendu parler dans les nouvelles ou peut-être sur le très populaire balado de Joe Rogan avec son invité spécial Paul Stamets. La psilocybine, c'est comme un peu un cocktail des plus puissantes hallucinations civilisationnelles qui ont jamais existé. À en croire les amateurs de champignons, ça serait quelque chose qui pourrait changer le monde, créer de nouveaux états de conscience, parvenir à l'étape suprême de la conscience humaine, et à en croire certains sceptiques, ça serait juste la nouvelle sensation justifiant la récréation à base de drogue. Qu'en est-il vraiment? Dans cet épisode bien houblonné, à de la bière sans alcool dans mon cas, on va se pencher un peu sur qu'est-ce que l'histoire dit sur la psilocybine et qu'est-ce que la science en dit. C'est le temps d'une bière, un balado original sur l'histoire des alcools et des drogues depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Johnny B. de Smack Talk!
Quel intro!
C'est pas pire, hein?
Tu vois, il faut que je prenne des notes, là.
Il faut que tu prennes des notes.
Oh my God!
Mais sais-tu, moi, tout, je prends des notes des fois quand je te vois partir.
Pour vrai?
T'es un excellent conversationnaliste.
Merci.
Puis surtout, t'es un grand styliste. La dernière fois que t'es venu sur mon show, t'avais pas autant de stickers sur tes appareils. Et mon Dieu, est-ce que c'est moi ou ta gourde double de volume à chaque fois que tu viens à cette table?
Ouais, c'est fou. Je m'hydrate. Je suis un gars hydraté.
Non, mais sérieusement, tu dois en avoir pour au moins 3 litres là-dedans?
Je pense 2.2. Ouais.
Dans tous les cas, c'est un volume impressionnant. Ouais. Johnny B, toi, la psilocybine, manifestement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Comment as-tu découvert cette particule dont on s'apprête à parler pendant une quantité de temps encore inconnue?
Oh, je l'ai... dans le fond, la première fois... OK, je vais embarquer là-dedans tout de suite. Là.
Aussi vas-y. Bien, aussi écoute, bien. On plonge la tête la première.
Ouais. Première fois que je l'ai essayé, c'est après le secondaire. J'ai eu... Dans le fond, j'étais très déprimé. Après avoir joué au football pendant 12 ans, je me suis perdu. Je savais plus quoi faire. C'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. Puis j'avais un patch très déprimant. J'étais beaucoup avec dans mes idées, dans mes pensées, puis je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai commencé à lire, voir des vidéos sur YouTube sur les Magic Mushrooms, puis comment que ça pourrait aider à la dépression. Okay?
Dans quelle année à peu près?
Peut-être 2016, je crois. 2016-2017?
Ouais.
Ouais, dans ces alentours-là. Puis j'ai décidé de le faire. On est allé dans le bois avec mes amis. J'ai jamais eu un sentiment de... I was happy for the first time. Mm-hmm. J'étais vraiment content pour la première fois. Ça fait des années. Puis j'ai réalisé que il n'y a pas juste le football. Il y a d'autres choses dans la vie.
Ça a ouvert un peu tes horizons?
Oui.
C'est comme une révélation?
Exact. Ça a créé des nouvelles façons de penser, des nouveaux points de vue. Ça a créé des nouvelles émotions aussi. J'ai appris comment aimer.
J'étais vraiment... À ce point-là.
À ce point-là.
Tu te révèles, là. On s'en va dans les profondeurs de ta psyché.
Absolument. Tu sais, c'était pas... c'était pas une microdose. On va s'entendre que ce n'était pas une microdose.
Peut-être plus une dose héroïque, macrodose, comme certains diraient. D'accord.
Ouais. Puis, dans le fond, ça a duré la journée au complet. Mais aussi, moi, je crois que le fait d'être dans la nature, puis être un... avec la terre, pendant que tu es sous l'effet de psilocybine... C'est tellement différent. Pour moi, ça te met un avec l'univers, puis tu réalises à quel point que tous les petits stressants, toutes les choses que tu vis dans la vie, ça... It doesn't matter.
Tu vois quelque chose qui est plus grand que toi. Non. Une expérience qui ressort souvent quand on parle de la psilocybine, c'est celle de la transcendance de soi-même.
Ego death.
La mort de l'ego, la dissolution de l'ego, ça, c'est l'expression plus clinique, mais j'hésite à dire clinique de façon catégorique parce que c'est tellement nouveau. Je veux dire, les études, les tests, on va en parler, c'est relativement récent dans l'histoire de la science, en tout cas. Donc, la dissolution de l'ego, ça, c'est un thème qui revient souvent. Et puis ensuite, c'est la synesthésie, c'est quand les sens se chevauchent les uns les autres. Mm. Ça, c'est quand tout... et littéralement dans tout. Puis c'est une chose aussi qui a été notée aussi dans certaines des études qui ont été faites depuis justement 2016, c'est le sentiment de baigner dans le monde, dans un monde vivant. Le sentiment que tout autour de toi s'en va vers toi, est animé, puis te dit quelque chose qui a une profondeur qui est inimitable.
Mm. Puis tu te sens, on dirait que tu fais partie de ça, de, mm-hmm. De cette énergie-là.
Mm-hmm. C'est faire partie d'un tout. Je pense que tout est dans tout est vraiment la moins bonne expression pour le dire, mais en même temps la meilleure. Mm-hmm. Mais d'où ça vient tout ça? Moi, je regarde ça avec un esprit d'historien légèrement critique. Puis je me dis que le point de départ, c'est la recherche d'un Saint Graal. On en parle de la psilocybine avec un mélange d'enthousiasme, de geek pour quelque chose qui pourrait enfin régler tous les problèmes de mm-hmm. l'humanité, mais aussi avec un peu l'appât du game médical, de ouais. voir si on pourrait pas utiliser cette particule-là comme une façon de régler des problèmes très spécifiques mm-hmm. de qui sont en lien avec la souffrance moderne. Notamment par rapport au stress, à la dépendance. Mais revenons au point de départ. Là. Comment tout ça a commencé? La psilocybine, ça ferait des milliers d'années que l'humain, que les humains connaissent ça, consomment ça de façon rituelle. C'est en 1958 que la particule est finalement synthétisée par un certain Albert Hofmann, le même gars qui, beaucoup plus tôt, à peu près une quinzaine d'années plus tôt, avait synthétisé le LSD à partir d'ergot. L'ergot, c'est un fonge parasitaire qui pousse sur certaines céréales. Mm-hmm. Les drogues...
Tout est lié.
Tout est lié. Ben, les drogues naturelles, ouais. surtout, mm-hmm. ont été présentes avec nous depuis très, très, très longtemps. Est-ce que c'est possible que l'homme ait coévolué avec la psilocybine?
Terence McKenna.
Parle-nous de Terence McKenna.
Ben, Terence McKenna, c'est non seulement un écrivain américain, mais un grand penseur. Mm-hmm. Puis lui, dans le fond, il a proposé la théorie du singe drogué. En anglais, OK, c'est mieux, selon moi, OK? The Stoned Ape Theory, OK? Puis, dans le fond, selon cette théorie, nos ancêtres humains ont développé leur conscience puis leur cognition en consommant des champignons. Puis, ça leur a stimulé le cerveau pour faire en sorte qu'ils soient des meilleurs chasseurs. Mm-hmm. Tu sais, les pensées plus profondes, les meilleurs liens avec leur tribu.
Ouais.
Tu sais, ça nous a rendu ce qui on est aujourd'hui, dans le fond.
Il y a Paul Stamets qui a fait un commentaire intéressant justement sur le fameux podcast sur les champignons avec Joe Rogan, dans lequel lui, il réinterprétait Terence McKenna en se disant « Ben, les champignons prédatent l'espèce humaine, les primates, les champignons sont arrivés bien avant. En fait, on s'est séparés de la protocellule qui a généré les fonges à peu près 150 millions d'années, quelque chose comme ça. Et on a plus en commun avec les champignons que les champignons en ont en commun avec les plantes. Wow. Ce qui veut dire qu'on se connaît à un point de vue cellulaire. Mm. Ce qui explique peut-être la raison pour laquelle beaucoup de composés psychoactifs dans les champignons sont si actifs dans le corps humain. Mais je m'avance un petit peu trop. Pour revenir à Paul Stamets, lui, il a bâti sur la vision de Terence McKenna en disant, puisque les champignons nous précèdent tellement et qu'on a beaucoup de choses en commun, il est très possible que nos ancêtres, on rappelle que notre espèce apparaît sur Terre, l'espèce actuelle de l'Homo sapiens sapiens, là, c'est-à-dire la version 2.0,
exact.
Sera apparu quelque chose comme il y a 170 000 ans, mm-hmm. en Afrique. Or, en Afrique, le climat est très propice pour que tout ce qui décompose, surtout les excréments de bovins, fasse pousser des champignons qui sont riches en psilocybine. Mm-hmm. C'est pas probable, on n'a pas vraiment d'échantillons.
Non, c'est une théorie.
C'est une théorie.
Oui.
La théorie est plausible, puis c'est le maximum, le plus loin, je pense qu'on peut se rendre là-dedans. Mais il faut s'entendre que ces conditions-là sont effectivement fertiles. Le champignon pousse bel et bien relativement facilement. Et la nature, depuis très longtemps, fabrique des quantités de psilocybine dans, je pense, à peu près 200 différents champignons. Fait que cette théorie-là, elle a beaucoup de sens. La question qui devient vraiment intéressante, c'est à quel point est-ce que ça aurait eu un impact sur le développement de la conscience, le développement de la langue?
De la pensée.
De la pensée humaine. Peut-être même
Non seulement humaine, mais symbolique aussi. Là.
C'est ça que je me disais, parce que je me dis, quand tu as une hallucination, grosso modo, ton inconscient régurgite ensemble, dans un nouvel assemblage, des choses que tu avais peut-être censées, mais que tu n'as pas encore construites par toi-même.
Exact.
Fait que le symbole, les premiers symboles humains pourraient venir d'une hallucination. Hmm. C'est fou raide.
Wow.
Imagine un peu les implications.
Ouais, moi, j'y crois.
Tu le crois. Toi, t'es prêt à arrêter là. T'es all-in.
Ouais, je m'en vais là.
Et puis, toi, t'as essayé de la psilocybine à un âge relativement jeune. Je pense que t'étais en 2016. J'allais dire que t'étais adolescent. Je sais pas
après de quel âge. T'as l'air
relativement jeune. Ça marche.
Ouais.
Puis, est-ce que t'en as réutilisé après? Est-ce que ça a eu des effets différents à différents moments de
ta vie? Je veux faire ça clair. Je suis pas un gars qui faisait ça à chaque jour. Là. C'est une expérience. Puis, je recommande pas de ne faire ça à chaque jour. Peut-être en microdose, mais tout dépend de ta situation. Mais pour vrai, j'y crois vraiment que si t'es dans un état de dépression, puis t'as plus d'options, puis tu sais vraiment pas quoi faire, why not? C'est mieux que les pilules, c'est mieux que peu importe que le docteur va te prescrire, c'est naturel. C'est naturel. Essaye, je te dis pas de prendre un macrodose de 7 grammes, puis d'aller voir dans d'autres dimensions. Là. C'est pas ça que je dis. Je dis, sors de tes pensées, sors des sentiers battus, puis essaie des nouvelles choses à cause... Quand t'as plus rien à perdre, t'as vraiment plus rien à perdre. Puis si t'as l'option entre de quoi de naturel puis quelque chose de synthétique, c'est naturel all the way, là.
Les gens de la génération de Terence McKenna, qui est un visionnaire, là, il faut le dire, c'est un grand...
Absolument,
il faut
oui.
le dire.
C'est le grand-père des psychédéliques, là.
Voilà. Ouais. Et avant lui aussi, il y a eu Timothy Leary, qui était, lui, un puissant défenseur de l'utilisation de doses héroïques de hash et de cannabis, qui a fait d'ailleurs des expériences elles-mêmes très psychédéliques. Est-ce que tu as entendu parler de ça?
Non.
Timothy Leary a fait une expérience qui a été très gravement critiquée pour s'incorporer lui-même avec le corps des sujets d'études, c'est-à-dire aller lui-même être littéralement dans l'expérience. Ça a mal viré, ça a eu des bagarres générales lui-même, je pense qu'il a perdu sa job à cause de ça. Mais ça monte un extrême. Là, la façon dont les tests actuels de la psilocybine évoluent, on est vraiment de l'autre côté dans des environnements super contrôlés.
Oui.
Toi, tu es un petit peu plus au courant des tests. Dis-moi, apparemment, c'est quoi les études qui ont été faites récemment? Puis qu'est-ce que ça nous apprend sur la psilocybine?
Mais tu sais, il n'y a pas juste la psilocybine aussi. Là. On va en revenir aussi, là, mais je veux juste le dire comme les différentes choses qui ont été utilisées. Psilocybine, numéro un, ça a été utilisé pour la dépression. Ça, c'est le plus d'études qu'on voit, là, c'est pas mal juste la dépression. Aussi PTSD. PTSD, c'est quoi en français?
Syndrome post-traumatique.
Voilà, pour les vétérans. Et les commotions cérébrales. Pour les anciens joueurs de foot ou peu importe, les gens qui subissent des accidents d'auto ou peu importe. Là. Puis, mais le LSD, okay, c'est utilisé, on a des études aussi que c'est prouvé, ça a été utilisé pour l'anxiété en phase terminale.
Ouais. Du LSD, ça?
Du LSD, oui. Dans le fond, ça portait à réduire l'anxiété chez les patients comme qui n'avaient encore aucune option. Là.
OK.
Il y a aussi la kétamine, mais ça, c'est pour des cas de dépression majeure, puis aussi pour les alcooliques.
C'est quoi la kétamine? Moi, je connais pas ça. J'en ai vaguement entendu parler.
Ouais, mais moi aussi, là, dans le fond. Là, mais la kétamine, dans le fond, c'est un tranquillisant de cheval. Ouais, qui ont utilisé, dans le fond, il y a en petite dose.
Il y a des gens qui essaient de guérir la dépression avec des tranquillisants de cheval.
Oui.
Je pense que je suis plus confortable de revenir sur le sujet de la psilocybine.
Ouais,
il y a à peu près 1000 études qui ont été faites jusqu'à date.
Ouais.
Les études sur les drogues, on est rendu à peu près 27 000. 1000 études juste sur la psilocybine. Certaines semblent être très, très prometteuses dans le monde de la dépression. Parle-nous-en un petit peu.
C'est ça. Ben dans le fond, durant les tests de psilocybine, il y a eu des essais cliniques qui ont mené à l'évaluation de l'efficacité de la psilocybine dans le traitement de la dépression résistante au traitement. Okay? So, pour les gens qui résistaient à tous les autres options, ils ont trouvé que la psilocybine, c'était la seule option qui les aidait pour vrai. Il y a aussi des patients qui ont signalé des améliorations durables de l'humeur.
Ils sont devenus plus positifs, plus joyeux.
Comme moi, dans le fond, comme l'expérience que j'ai eue, j'ai totalement changé mes points de vue après ça. Tu vois le monde différemment. Puis pour les gens qui sont en phase terminale de dépression, c'est juste ça qu'ils recherchent.
Ouais.
Tu sais, de sortir de leur réalité.
Ouais.
Puis c'est ça que ça permet. C'est ça que ça permet pour les personnes qui ont vraiment rien à perdre, là. Aussi les effets d'antidépresseurs. On va pas se le cacher, les antidépresseurs, c'est quelque chose.
C'est dur un peu sur le système.
Ouais.
Hein?
Comme les benzodiazépines, quoi d'autre, le Valium, peu importe. Puis c'est très dur à arrêter, même plus dur que l'héroïne, dans le fond. Là. C'est,
ah oui?
Oui, c'est comparable à l'alcoolisme, for sure. Dans le fond, ce n'est pas le cerveau qui est addicté, mais c'est le corps.
Mm-hmm.
Quand tu en prends en grosse dose ou même en petite dose pour une longue durée de temps, tu vas souffrir des conséquences non seulement mentales, mais physiques aussi. Là. Tu vas vomir. Tu vas, c'est des withdrawals. Je sais pas comment le dire en français. Des withdrawals.
Des sevrages qui sont très difficiles. On peut voir pourquoi pharmacologiquement, puis même économiquement, une seule dose dans un environnement contrôlé de psilocybine par des professionnels, par des gens qui vont s'assurer que tu n'avais pas simplement une mauvaise expérience puis une hallucination qui va juste te confondre. On peut voir, ce serait quoi l'avantage dans un environnement contrôlé. C'est des traitements qui sont fulgurants.
Oui.
Je pense notamment à un traitement dans lequel, c'était un exemple, c'était un échantillon d'à peu près 15 personnes, 15 fumeurs qui avaient essayé beaucoup de choses, qui avaient l'expérience déjà d'avoir essayé de fumer, qui avaient une expérience d'avoir essayé d'arrêter de fumer puis qui avaient échoué. Ils ont pris une dose ou deux doses de psilocybine. 80% ont complètement lâché la cigarette. Et ça, c'était 6 mois plus tard.
Wow.
Donc, il y a deux théories qui expliquent la raison pour laquelle les effets de la psilocybine sur le cerveau humain sont si puissants. Puis ça a tout rapport avec la neuroplasticité. Est-ce que tu connais la neuroplasticité? C'est grosso modo la capacité du cerveau de se recréer, de se régénérer, de réécrire ses circuits neuronaux.
Okay.
Toute notre expérience, tous nos souvenirs, c'est de l'encodage de différents circuits neuronaux. Différentes régions sont liées par des neurones, des minuscules connexions qui résument en fait la structure de ton cerveau, de ta pensée, de la conscience.
Ouais, de toi.
Donc, toi, tu es une structure. Tu peux refaire la structure. Une des deux théories sur l'efficacité de la psilocybine, c'est que, contrairement à la croyance populaire, la psilocybine va interrompre les liens entre les principaux réseaux de ton cerveau, entre les principaux circuits neuronaux. Fait qu'imagine que ton cerveau, c'est comme la carte routière des États-Unis.
Okay, ouais.
Tu regardes ça la nuit, puis tu vois des amoncellements de lumière.
Mm-hmm.
Fait qu'imagine, tu regardes ça du point de vue d'un satellite, puis là, tu vois qu'il y a des amoncellements de villes. Fait que pense que tes plus gros circuits neuronaux, c'est comme les plus grandes villes. Là, t'enlèves New York, t'enlèves Chicago, t'enlèves San Francisco. Il te reste juste des petites villes. Il te reste du Burlington, il te reste San Jose, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment petit, mais tu comprends mon analogie?
Oui, absolument.
Puis là, pour que tes idées passent, pour que tu ressentes quelque chose, pour que t'en prennes conscience, la pensée ou les signaux électriques doivent passer par d'autres chemins parce qu'il y a des chemins qui sont coupés.
Donc ça prend plus de temps.
Ça prend plus de temps, mais ça fait aussi plus de synergie entre des sections du cerveau qui ne se parleraient pas autrement. Donc, tu crées littéralement des nouveaux circuits neuronaux pendant que certains circuits neuronaux sont comme momentanément désactivés. Fait que, tu sais, un petit peu plus tôt, tu me parlais de créer une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. C'est littéralement ça qui arrive. Parce que ton cerveau est un peu handicapé dans ses circuits les plus importants, il crée des nouvelles connexions.
Ouais.
Et ça, c'est la première théorie, qui est quand même assez fascinant. Hein? Les implications sont grandes.
Mais est-ce que c'est une théorie?
C'est vérifié en partie par certaines études. Parce qu'on voit qu'effectivement, les ondes principales qui sont actives avant la consommation de psilocybine, tout d'un coup, sont inactives, puis là, on voit de l'activité ailleurs.
Mm-hmm.
On a mesuré ça avec de l'imagerie à résonance magnétique. C'était dans une des études là, depuis 2010, mais je ne pourrais pas dire laquelle. Donc, on a mesuré des différences assez importantes dans quelles sections du cerveau sont actives. Les implications sont très grandes, puis on voit comment, pour quelqu'un qui se fait un traumatisme, ça serait important. Parce que là, tout d'un coup, le souvenir... Mettons, on va prendre l'Afghanistan parce que c'est aujourd'hui le meilleur exemple du syndrome post-traumatique. Alors, imagine que tu parles à un professionnel dans un environnement contrôlé avec la psilocybine dans ton corps qui commence à agir. Puis là, on te pose la question, qu'est-ce que tu as vécu? Tout d'un coup, la pensée associée avec l'incident dans lequel une bombe a explosé n'est plus reliée à une souffrance instantanée, un traumatisme de jeunesse. Tous ces souvenirs-là sont comme momentanément déconnectés les uns aux autres. C'est comme si tu avais utilisé de l'alcool dans un fermenteur. Évidemment que j'allais parler de bière. Hein?
Of course. Il faut faire le lien. C'est quoi tu bois?
Oui.
Sans alcool.
Bière. Oui. J'ai décidé de prendre un petit break d'alcool. En tout cas, de prendre un break de beaucoup d'alcool.
C'est pas d'alcool, en passant.
C'est ça. Ouais, 2,2 litres, j'espère que non.
Je suis moitié viking aussi, là, peut-être, on sait jamais.
Fait que c'est ça. Ouais, c'est une sans alcool de McCausland.
Nice.
C'est mon père qui m'a trouvé ça au IGA, je le salue, merci papa. Donc, c'est ça, c'est la théorie numéro un. Les implications sont vraiment bonnes. Puis, ils ont du sens. Il y a un petit peu de corroboration. Puis, comme tu l'as dit, c'est vraiment au niveau de la dépression que les études sont les plus probantes par rapport à la psilocybine. Mmh. Ensuite, en deuxième ou troisième position, tu as le traitement du syndrome post-traumatique, où est-ce que y a beaucoup de gens qui, effectivement, étaient capables d'au moins se réconcilier avec une expérience ou cesser d'avoir terriblement mal lorsqu'ils en parlent, ce qui est déjà, par rapport à ce syndrome-là, une immense victoire.
Oui. Mais aussi des chercheurs de l'Université de Californie. Eux, dans le fond, ils ont fait les premières recherches sur les commotions cérébrales.
Ah ouais.
Oui. Puis, dû au fait des plaquages, puis de nombreuses coups aux têtes. Mm-hmm. Les commotions cérébrales, c'est ce qu'on voit de plus souvent avec les joueurs de football. Puis, il y a aussi beaucoup de joueurs de football qui ont décédé à cause de ça. Puis, le cerveau d'un joueur de football, après, je crois, c'est une moyenne de 5 ans, il y a les mêmes... qualité de neurones qu'un homme avec de l'Alzheimer's âgé de comme 80.
C'est terrible.
C'est terrible. Il y a des trous dans le cerveau. Là.
Littéralement. On a trouvé des trous?
Oui.
Hey, c'est fou, man.
C'est fou.
Est-ce que tu penses que les Américains savent ça quand ils commencent une carrière dans le football? Je dis les Américains parce que c'est vraiment aux États-Unis où est-ce que tu peux te faire... financer tout un cursus
académique à l'université. Mais c'est une religion, là-bas.
Je sais. Puis moi, je regarde justement le football avec des lunettes d'historien de la religion. Je regarde ça, je me dis, ces gens-là, c'est nos gladiateurs contemporains. On a encore, je pense qu'à la place d'avoir des jeux, des pains, on a de la bière et du hockey au Canada, puis du frostball aux États-Unis. C'est une référence d'un film avec Adam Sandler. Je sais pas si tu l'as
vu. Non, ça a passé 10 pigeons
sur ma tête. J'étais trop rapide. Je t'ai pas donné le temps pour te préparer. Mais c'est ça, oui, tout à fait. C'est carrément une religion. Mais revenons avec l'effet sur la tête de ces plaquages-là.
Donc, il y a beaucoup d'anciens joueurs de la NFL sont allés voir les docteurs puis ils ont dit « OK, regarde, moi, je veux pas me rendre à ce point-là. Je veux pas prendre ma vie. Je veux pas subir les conséquences. » Puis c'est pas juste ça, c'est ta famille. Quand t'as plus de contrôle sur tes émotions, ça fait peur. Là.
Excuse-moi, c'est ça qui arrive à ces jeunes hommes-là. Ben oui, avec les trous dans le cerveau, c'est sûr. Oui. Ils sont plus capables de gérer. Non. Ils ont une dégénérescence marquée.
Oui.
Wow.
Il y a un ancien maraudeur, un ancien linebacker, Junior Seau. Il a joué avec les Patriots de New England. Puis, il a gagné une coupe de Super Bowl avec Tom Brady. Puis, lui, dans le fond, il y a eu une coupe de séquences psychotiques. Puis, à la fin, il a pris un shotgun. Il a tué sa famille au complet. Puis, il a mis une note sur son chest en disant « OK, please study my brain ». Puis il a terminé sa vie. Ouais.
C'est fou.
Il a fait des études sur son cerveau, puis c'est son cerveau que... C'était l'équivalent d'un homme avec de l'Alzheimer's âgé de comme 80 ans. Là.
C'est terrible, ouais. Man. Je voudrais pas que mes enfants jouent au football sachant ça. Puis d'un autre côté, on n'est pas aux États-Unis ici, donc je me dis que, disons que les gens jouent...
Ça a changé.
Ils jouent peut-être pas...
Le style de jeu a changé.
Ouais.
Mais il y a quand même des collisions, tu sais...
Mettons, pour en revenir à la psilocybine, mm-hmm. qu'est-ce qu'on a vu par rapport au plaquage ou à l'utilisation de psilocybine pour atténuer ces effets-là?
C'est pas pour atténuer les effets. Ben, dans le fond, les effets sur les neurones. Vu que la psilocybine, ça recrée les nouvelles connexions, ça l'aide aussi à recréer des cellules qui ont été perdues après tous les coups, là, dans le fond.
Recréer des cellules? Oui. Est-ce qu'on parle de création de nouvelles neurones?
Tranquillement, pas vite, oui. C'est très lent et c'est très long comme processus, mais on voit dans les études avec l'Université de Californie que ça réduit l'inflammation cérébrale puis ça améliore la récupération à un point incompréhensible.
Ben ça m'amène à un autre point, une autre théorie.
Mm-hmm.
Et celle-là, elle est extraordinaire, elle est incroyable. Puis ça demande qu'on parle un petit peu de neurones. Il y a une croyance populaire qui veut qu'on est avec un certain nombre de neurones. Les neurones font juste commencer à disparaître à partir de ta naissance. C'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des neurones qui se forment dans le cerveau, même avec quelqu'un qui a l'Alzheimer bien avancé à 92 ans. On recrée des neurones, c'est juste qu'on n'en fait vraiment pas rapidement, puis certainement pas à la vitesse qu'on les perd.
Mais est-ce que tu crois que c'est les connexions qui se perdent avant?
Alors, c'est là que ça devient intéressant. Il y a une des études sur la psilocybine qui a été expliquée dans un podcast par Uberman Lab, qui est absolument génial, il faut l'écouter.
Ouais, moi aussi,
c'est vraiment une source d'information prodigieuse sur comment les stresseurs, les drogues, la diète, les habitudes de vie ont un impact sur le corps. Puis c'est très facile à suivre. C'est un anglais qui est très simple pour les gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise en anglais. C'est facile à suivre, puis il se répète quand c'est compliqué. Et puis, il y a une étude que lui a citée, qu'on va mettre dans la description de l'épisode, qui a découvert qu'il y a des espèces de minuscules colonnes vertébrales, des espèces de dendrines qui se créent sur les neurones après une consommation d'une seule dose de psilocybine. Ce que ça veut dire, c'est que ça favorise la construction de nouveaux terminaux, si on veut, dans le cerveau. Évidemment, ça, c'est une étude. Il en faudrait vraiment beaucoup. C'est très préliminaire. Mais les résultats sont quand même là. Cette étude-là a vu qu'il y avait un changement, même pas au niveau de la... Comment je pose ça? Des circuits, là, physiquement. Il y a quelque chose dans les neurones qui s'est ajouté après. Puis ça serait associé avec une meilleure sensibilité à certaines choses qui sont grosso modo positives. Et c'est encore nébuleux, mais c'est prometteur. Il y a un changement qui est physiologique. L'autre changement, la deuxième théorie dont je voulais te parler, celle-là aussi est vraiment fascinante, c'est le neurotransmetteur 2A. Le neurotransmetteur 2A, en fait, c'est un neurotransmetteur à sérotonine.
Okay.
On a ça dans le cerveau. Le sérotonine est un autre neurotransmetteur qui régule tellement d'affaires que la liste serait vraiment longue. C'est un peu de la récompense, c'est un peu de la patience, c'est un peu de l'optimisme. La liste est trop large pour que deux ou trois caractéristiques résument bien la chose, mais ça régule pas mal d'affaires, puis c'est un peu partout. Étrangement, tu as de la sérotonine dans ton cerveau, puis 90% de ta sérotonine n'est pas dans ton cerveau, est dans ton estomac. Ça reste là. Pour t'endormir le soir, tu transformes de la sérotonine en mélatonine. Je ne sais pas dans quelle partie du corps ça se fait. Mais grosso modo, les études ont montré que une seule consommation de sérotonine va augmenter la sensibilité des récepteurs à la sérotonine. Une seule consommation de psilocybine dans un environnement contrôlé, quand tu élimines les stress puis quand tu contrôles pour les autres faux positifs, juste une consommation, ça fait en sorte que certains récepteurs à sérotonine sont plus sensibles. Et la théorie derrière ça, la théorie sous-jacente, c'est que tu es maintenant plus sensible à détecter des bonnes nouvelles ou des choses encourageantes. Imagine, tu prends juste une chose comme ça, juste une dose, puis tout d'un coup, tu es plus de bonne humeur. Je pense qu'en 2023, dans l'âge moderne où est-ce que tout est stressant, on est surstimulé. On a de la difficulté à maintenir des amis parce qu'on est
entrecoupé
dans la... Ben oui, ça aussi, on a de la misère à s'écouter. Alors, t'imagines juste un composé qui peut réduire les stresseurs de façon significative. Puis c'est là qu'on arrive dans la spéculation, puis le sensationnalisme, puis l'intérêt extraordinaire que ça génère sur plein de podcasts, y compris le nôtre. On fait partie de ce phénomène-là.
C'est vrai.
La psilocybine, c'est à ce point prometteur, en partie parce qu'on veut que ça soit vrai. Et là, ça nous amène dans la zone dangereuse du placebo. Et c'est là que moi, je deviens très critique avec le microdosing. Est-ce que tu as essayé de microdoser à la psilocybine?
Oui, mais pas pour longtemps. J'ai peut-être fait deux semaines.
Deux semaines, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a une...
Dans le fond, non. Moi, c'était des 0,1. Je sais pas c'est quoi.
0,1 gramme?
Oui.
Ouais.
OK. Puis honnêtement, j'étais peut-être plus créatif, j'avais peut-être plus d'énergie, mais...
T'as pas commencé une religion, t'as pas commencé un culte.
Non,
tu me le dis, hein, si tu commences un culte.
Ouais, inquiète-toi pas.
Parce que là, tu lances ton deuxième podcast. Moi, ça m'étonnerait pas de voir un culte après ton cinquième podcast. Quand ton quatrième podcast va devenir un podcast culte, à un moment donné, tu vas pouvoir faire un culte sans le podcast.
Exactement.
Tu vois comment je fais culbuter les jeux de mots?
Ouais.
C'était terrible. Mais merci de ta patience.
Merci de culbuter.
Alors, c'est ça. Le microdosing.
C'est quoi une microdose? Comme pour vrai, là. Est-ce que ce que je prenais, c'était-tu une microdose?
Ouais, probablement. C'est généralement estimé à entre 0, Le seuil...
qu'on décrit, là?
J'arrive. Ouais. Je fais de mon mieux.
Okay,
le seuil à partir duquel tu peux plus dire que c'est une microdose, c'est à peu près entre 0,2 puis 0,3 milligrammes.
Okay.
Donc, après à 0,3, on s'entend que c'est plus vraiment une microdose. C'est une dose, mais pas encore héroïque. Par exemple, la fameuse scène hollywoodienne de Paul Stamets qui découvre l'infinité du monde dans un arbre durant une averse électrique. Lui, il aurait pris 5 gros champignons puis ils auraient engouffré comme ça, sans vraiment trop y penser. Ça, c'est probablement 15 fois plus que le seuil.
Quand je disais là, de voyager dans d'autres dimensions, là, mm-hmm. c'est ça qu'il a fait. Là.
Absolument. Ouais. Lui, il est intéressant, Paul Stamets. C'est peut-être le mycologiste le plus connu de l'univers. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle les gens savent c'est quoi un mycologiste.
Ouais.
C'est un gars absolument brillant qui a plein de brevets. Il a trouvé des façons de guérir des maladies importantes touchant aux abeilles en leur fabriquant des petits nids dans lesquels il y avait un champignon dont les propriétés pour le système immunitaire animal étaient juste extraordinaires. Puis avec ça, tout d'un coup, ces abeilles-là n'avaient plus la fameuse, ou en tout cas les effets de la maladie des ailes rétrécissantes qui toucherait quelque chose comme, je sais pas, moi, 60-70% de toutes les abeilles en territoire américain. Fait que c'est absolument fabuleux. Puis lui, bien évidemment, c'est un grand défenseur de l'utilisation de champignons à des fins, j'allais dire nutritionnelles, mais à des fins bénéfiques. Là. Donc, c'est pas quelqu'un qui, par exemple, supporte qu'on dise champignon magique. Parce que pour lui, le champignon hallucinogène doit être mis, puis ça, c'est ce que pensait aussi
Terence McKenna.
Pour être pris au sérieux, il faut qu'il y ait un set, un setting, il faut qu'il y ait un endroit, puis une atmosphère. Un contexte, puis un entourage, si on veut.
Je suis très d'accord avec ça aussi. Ouais. Coup, ça ruine le nom, ça ruine l'histoire de tout ça. Là.
Ben, ça encourage la perception purement récréative.
Exact.
Et aussi le préjugé sur quoi une hallucination, c'est nécessairement mauvais, puisque c'est faux. Mais tu sais, j'en ai parlé avec des amis récemment sur les intérêts scientifiques de la psilocybine puis des drogues hallucinogènes. Puis je me suis fait répondre de façon un peu complaisante par un ami. « Ouais, mais on a tous déjà eu un trip au secondaire, puis on pensait que c'était vrai. » Puis ça m'a comme arrêté là, sur le coup. Je me suis dit « Ah, OK, ouais, c'est vrai. Malgré tout, c'est quand même juste des hallucinations. » C'est pour ça que je me suis rappelé « Mais on a des hallucinations tout le temps. » On a des idées fausses tout le temps, on a des préjugés, on a des espèces d'associations mentales qui sont juste fausses, on a des idées préconçues.
Absolument.
Après ça, même sur des choses vraies, même sans préjugés, on se trompe quotidiennement, on fait des erreurs de mathématiques. Après ça, on a des composés chimiques qui sont tout à fait naturels, qui nous altèrent quotidiennement. Notre diète peut influencer notre humeur. Tout nous altère déjà et tout fausse déjà notre conscience. Alors comment, à partir de maintenant, dire que parce que c'est une hallucination, c'est donc dans le domaine du faux et que c'est pas malgré tout réel? Tu peux avoir une idée
c'est
qui est fausse,
réel.
Mais c'est réel, tu comprends? Fait que là, depuis ce temps-là, je me suis révélé à moi-même que en fait, c'est pas l'hallucination qui est importante. Pas d'un point de vue médical pour des trucs comme la psilocybine. Non. La question qui se pose, c'est une fois que tu as consommé la psilocybine, c'est quoi l'effet à long terme?
Ouais.
Puis ces études-là sont relativement probantes à cet égard. Avec, par exemple, la susceptibilité agrandie de certains récepteurs de psychose.
Ouais.
De la psychose.
Ouais.
Ben, ça, c'est l'autre danger aussi.
Ouais.
Oui, c'est pas garanti que ça va bien se passer.
Exact. Si tu prends une dose héroïque, tu joues avec
On recommande pas de faire ça.
Non, exactement. Ouais, c'est ça. On ne recommande pas.
Autre grand mythe sur la psilocybine, il y a un champignon qui, de tout temps, a été associé avec une expérience
une excellence psychédélique.
Mon Dieu,
ouais,
c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est génial. Il y a un champignon qui est associé avec l'excellence psychédélique. Merci, tu m'as fait mieux dire ce que j'ai mal dit.
Ouais. Venant d'un anglais.
écoute, ben, tu as gagné deux morceaux de robot. Deux morceaux de robot pour Johnny B, le Snack Talk.
Merci.
Avec sa bouteille de 2.2 litres.
Non, je
plus je la regarde, plus j'ai l'impression d'avoir une sculpture néo-décor dans un musée. Alors, je sais plus ce que je disais pendant tout.
Moi non plus. C'est bien correct.
Qu'est-ce que je disais?
L'excellence psychédélique.
Ah oui. Bon. Il y a un grand mythe sur la psilocybine qui serait associé avec un champignon qui aurait été là de toute l'histoire de l'humanité puis qui serait relié à tout, la Manita muscaria. La Manita muscaria, on connaît l'image, on a tous déjà vu ça, ne serait-ce que dans un jeu vidéo comme Super Mario. Ça ne contient pas de psilocybine. C'est la muscaline qui est responsable des effets psychoactifs. Donc, la petite particule, le petit composé chimique là, qui vous fait triper quand vous consommez ça dans certains environnements, c'est pas la psilocybine. Voilà, fin de la parenthèse. Est-ce qu'on devrait légaliser la psilocybine, selon toi? Et si oui, dans quel contexte?
Oui, sous un contexte médical.
Il faudrait que ce soit un environnement contrôlé.
Ouais.
Tout à fait d'accord avec ça. Parce que si tu lâches ça dans le public... ça va, selon moi, devenir une nouvelle crise de la santé. Surtout si ce n'est pas réglementé. Je vois.
Mais t'as vu Ottawa? À Ottawa, l'autre bord du pont, ils ont, dans le fond, ils ont des genres de... Est-ce que tu t'en souviens?
On quand... enregistre le podcast à Gatineau, qui est juste à côté d'Ottawa, pour les gens qui ne le savent pas. Faut le dire, là, pour les gens de Nice qui nous écoutent religieusement.
Ah oui, hein? Salut.
Je sais pas, il y a au moins une personne à Nice qui nous écoute, je pense. Je peux pas le dire.
Au moins une personne.
Au moins une personne, dit-il en levant deux doigts.
Ouais. Oh my God. Dude, j'ai même pas bu, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, je pense.
J'ai besoin d'alcool.
C'est l'effet placebo.
Ouais, je crois. Mm-hmm. Ouais, ouais. Tu me rends sous.
D'ailleurs, non, mais ça marche pour de vrai. Hein.
Ouais.
L'effet placebo, on l'a testé avec l'alcool, on l'a testé avec la drogue. Des gens qui se font dire qu'en ont bu ont des effets similaires à l'ébriété. C'est fou raide, c'est fort l'effet placebo. On a essayé ça avec des drogues aussi, avec le café et tout. Mais bref, retournons à Ottawa.
Ouais,
qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa?
Dans le fond, est-ce que tu t'en rappelles quand le cannabis était sur le bord d'être légalisé?
Oui, j'étais là.
Oui. Dans le fond, il y avait des genres de... Comment tu peux dire ça? Des petits magasins de cannabis illégal, mais la police, dans le fond, il laissait les gens faire leur business, puis c'était genre dans une genre de zone grise légale.
Là, c'était t'sais. Pas illégal, mais c'était pas légal.
Ou c'était toléré.
C'était toléré.
C'était toléré. Ils font la même affaire avec les champignons en ce moment. Là.
OK.
Dans le fond, je suis allé voir sur Wellington, il y a une place qui s'appelle Shrooms ou Shroomies, peu importe. Puis tu peux acheter en petite dose des champignons. Ouais.
Donc, on serait dans le même flou légal dans lequel on était au Canada. Mais
ça
qu'est-ce qui explique que maintenant, on est dans ce flou-là? Moi, je suis allé regarder là, avant qu'on enregistre sur le site de Santé Canada, puis j'ai regardé c'était quoi la classification de la psilocybine, puis des drogues du genre de la psilocybine. C'est encore basé sur le modèle américain dans lequel c'est dans le Schedule 1.
Ouais.
Donc, pour les drogues
c'est
qui
illégal.
Sont considérées comme, c'est ça, illégales parce que... ils n'ont pas de bénéfices immédiats ou prouvés médicaux. Mais aux États-Unis, la psilocybine a maintenant le statut de breakthrough, donc d'avancer puis de percer. Donc, sous licence, sous un permis, tu peux faire des essais cliniques. Donc, tu as la permission de t'en procurer puis de faire des essais cliniques. Ça a été facilité par des gens extrêmement persistants, très têtus aux États-Unis qui se sont dit pendant 20, 30, 40 ans, je veux... faire une recherche là-dessus. Mais au Canada, on n'a pas le statut de breakthrough. Fait que je me demande...
C'est bizarre.
Pourquoi y aurait-il ce flou-là? Parce que, je te le dis, je regarde le site de Santé Canada, c'est juste interdit. Point final, mais Santé Canada rajoute... Puis là, on est en juillet 2023, à l'heure où est-ce qu'on enregistre le podcast. Sous certaines exceptions, sous un permis, tu peux pas avoir de la psilocybine ou en faire pousser ou en vendre ou en consommer, etc. Sauf exception... sauf avec autorisation de Santé Canada. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a du mouvement, et puis ça s'accélère. Je pense que le simple fait qu'on en parle aujourd'hui est une preuve de l'accélération, parce que moi, je suis un gars de bière, mais à un moment donné, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Il faut que je fasse ça avec Jollibee!
Yes, sir.
Mais moi, je regarde ça dans un autre angle, plus historique, puis je me dis, la psilocybine, ça aurait probablement été... consommé avant la civilisation, puis que ça aurait amené des états d'éveil nouveaux, que ça aurait peut-être même aidé à construire la conscience humaine. Puis je vois, comme on a dit un petit peu plus tôt, l'avantage fou, fulgurant, psychédélique, même sur l'évolution du langage, notamment avec la capacité d'abstraction.
Mm-hmm.
Parce que je me dis, comment faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant?
Exact. Oui.
À une époque, parce que tu n'as pas beaucoup de ressources cognitives, tu n'as pas beaucoup de loisirs quand tu es occupé à survivre tout le temps, puis que ton environnement est très pauvre en nutriments, puis que tu es toujours...
Aussi création d'outils.
Oui, ça aussi.
Tu sais, Le feu a-tu été créé à cause des champignons, sais-tu? Comme
tout revient aux champignons. Les champignons sont les grands recyclateurs de la nature. Mm-hmm. Ils transmettent le carbone, ils transmettent les nutriments aux arbres. Et puis, ils sont peut-être même dans les racines de la civilisation, si on en croit des gens comme Terence McKenna. On voit des preuves de ça, en fait, dans des statuettes anciennes. En Mésoamérique, on a trouvé des statuettes qui dateraient de plusieurs milliers d'années, 5 à 6 000 ans. Des statuettes de champignons anthropomorphes, dans lesquelles tu as une forme claire de champignon avec une tête d'humain. En Algérie, on a aussi sur le plateau du Tassili-Alger, je pense, ou dans le sud. Je le dis probablement pas très bien, mais grosso modo, souvenons-nous que c'est en Algérie. Une gravure rupestre dans une cave, dans une grotte, qui daterait d'à peu près 7000 ans, peut-être plus. Puis ça nous montre une espèce de chaman avec une tête d'abeille dont la peau en relief est recouverte de champignons. Tu as l'impression que c'est juste une métaphore pour les champignons. Et comme la forme est très subjective, que c'est quelqu'un qui porte des champignons, qui a une tête d'abeille, évidemment, il y a des chercheurs qui se disent peut-être que ça, c'est une preuve que le chamanisme serait lié aux champignons. Ça faudrait probablement beaucoup, beaucoup d'autres caves et grottes comme ça. Mais, je veux dire, pour prouver qu'effectivement, c'est pas juste de la spéculation. Mais ce qui arrive, c'est que la question se pose, est-ce que les peintures rupestres serait pas arrivé dans une cave parce que c'était l'environnement contrôlé pour consommer une espèce de drogue qui servait de rituel. On sait qu'une consommation religieuse de drogue à des fins initiatiques ont marqué vraiment l'origine de certaines civilisations. Ouais. Je veux dire, au Mexique, on a des très bons exemples. On a certains groupes autochtones qui, eux, consomment le peyote, qui est un champignon protégé qui fait la mescaline. La mescaline, c'est, je pense, 10 fois plus puissant que la psilocybine. Mm. Et puis ça, c'est un environnement contrôlé.
Ça
vient d'un
cactus, ça?
Ouais, okay. c'est un cactus. Le cactus, il prend une éternité pour pousser. C'est comme gros, puis en même temps petit, c'est comme plat. Okay. Puis ça prend vraiment du temps avant que le cactus pousse puis fasse de quoi que tu peux vraiment utiliser. Puis ça, c'est donc protégé. Il y a aussi un petit frère là, aux États-Unis qui pousse le San José, je pense. Et puis, donc, on a ces expériences-là. Dans le Rig Veda, un des plus anciens textes écrits, on fait référence au soma. Le soma serait une boisson merveilleuse qui rend égal à Dieu, qui fait oublier les soucis. Il y a plusieurs passages qui font hommage, non pas à un dieu ou à des dieux ou à des événements mythologiques et cosmiques, mais bien au soma, à quel point cette boisson-là est géniale. En Grèce, on a l'ambroise, la nourriture des dieux. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on n'en parle jamais comme étant quelque chose qui remplit un ventre ou comme étant quelque chose qui goûte particulièrement bon. On n'en parle pas comme quelque chose de sucré. Il n'y a pas de description de saveur. On en parle comme quelque chose qui fait oublier la douleur. Après ça, il y a les mystères d'Eleusis. Les mystères d'Eleusis, il y a mon ami ici, je vais montrer le livre à la caméra. Mystère d'Eleusis, il y a Carl Rock avec Gordon Wasson, Albert Hoffman, qui a synthétisé le LSD, qui a écrit, je pense, dans les années 70-80, La route vers Eleusis, dans laquelle, après avoir inspecté les résultats chimiques obtenus sur la psilocybine, il a retourné à son doctorat. Lui, c'est un spécialiste de Dionysos. Et il a trouvé des liens assez forts entre les mystères d'Eleusis, Dionysos et puis une consommation. Puis ils ont théorisé que le breuvage qui aurait été consommé de façon rituelle dans les mystères d'Eleusis aurait contenu des traces d'ergot. L'ergot dont on a parlé un peu plus tôt, qui a donné le LSD. Écoute, pour te donner une idée d'à quel point les mystères d'Eleusis étaient importants à l'époque, les mystères d'Eleusis juste ici, il y a Cicéron, un personnage écrivain romain, qui en parlait comme étant la plus merveilleuse chose au monde bien avant la démocratie athénienne. Wow. On ne pouvait pas en parler. C'est interdit, sous peine de mort. Il y a même Socrate qui a fait un petit party dans lequel il aurait recréé ça, puis ça aurait été une des choses qui aurait joué contre lui, qui aurait mené à son procès. Mais bon, les gens n'aimaient pas Socrate de toute façon parce qu'il posait des questions talentes. Et puis après ça, il y a aussi dans le zoroastrisme, On en connaît un petit peu moins parce que c'est moins précis, mais il y aurait eu une boisson magique similaire au soma. Donc, tout ça pour dire que de la psilocybine ou d'autres drogues hallucinogènes ingérées de façon orale par une espèce de boisson, même fumée ou sniffée.
Est-ce que ça a le même effet?
Non. Je pense que si tu...
C'est pas fait pour sniffer, non? Ou
ben,
de,
si
pour
tu sniffes, ça va directement dans ton cerveau. Fait que si ça passe la barrière, la barrière du sang, la barrière genre encéphalographique, quelque chose de même. Je vais pas prononcer ça comme du monde. Ça s'en va directement dans le cerveau. Tu prends ça par... En fait, tu vas trouver ça complètement fou. Sigmund Freud, tu sais, le fameux psychanalyste, oui, il donnait de la cocaïne à ses patients pour les aider à se détendre.
Ça, pour se détendre.
Oui, oui, absolument. Pas pour se tendre, pour se détendre. Ça, c'était l'époque où est-ce que toutes ces drogues-là là, étaient légales. Si tu pouvais aller avoir une prescription pour de l'héroïne, pour de la mescaline, pour tout ça, là, c'était tout légal.
Ouais.
Puis Freud, il mettait des gouttes de cocaïne dans les yeux de ses patients. Pourquoi les yeux? Parce que
ben, ça détend.
Ben, c'est sûr que ça, tu te dilates littéralement la paupière, mais tes yeux sont directement connectés à son cerveau. Je veux dire, il n'y a pas de raccourci. Ça va directement à ta tête. Ta tête, je veux dire, 40% des ressources de ton cerveau sont dédiées à tes yeux. Fait que c'est normal que ce soit super.
Prenez des notes, bande de junkies. Non,
fait que c'est ça, ouais, grosse dérape. Mais c'est vraiment pour essayer d'inscrire la psilocybine dans un contexte historique pour mettre ça un peu en contraste avec d'autres substances qui ont été consommées pour voir que c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la science moderne qui accepte, ne serait-ce qu'aux États-Unis et en Angleterre, ben, je dirais pas que c'est forcément la vérité, mais qui accepte de sortir du préjugé habituel que si ça cause des hallucinations, c'est nécessairement faux, mauvais ou pas bon. Parce qu'encore une fois, ça, c'est la grande morale, c'est la grande leçon, puis c'est là-dessus que je pense qu'on va finir. C'est pas l'hallucination qui est importante d'un point de vue médical. C'est son impact sur la neuroplasticité. Et grosso modo, c'est est-ce que le monde va mieux après? Et c'est ça le temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler des vraies affaires, que ce soit de drogue, d'ergot, de bon temps ou de bouteilles de 2,2 litres d'eau. C'est le temps qu'on prend pour parler des vraies affaires d'une antiquité autant moderne. On s'intéresse autant à vous qu'à nous, qu'aux différentes cultures de différents continents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner. On va avoir des beaux événements là, pour vous. Je me lance dans les conférences. Vous allez me retrouver un peu partout à travers la province dans les 12 prochains mois. Restez à l'affût pour plus d'informations. Deux excellents podcasts aussi qu'on a enregistrés récemment avec Steven Bilodeau sur la prohibition au Québec et aussi la fameuse histoire de Conrad Labelle, roi du bootlegging au Québec. Johnny B, qu'est-ce qu'on peut... où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce qui se passe de avec toi, c'est le temps de faire une annonce.
Smacktalk.tv, ça va toujours être ça. Allez me voir sur les réseaux, Instagram, YouTube, Spotify, Smacktalk TV. J'ai aussi un autre podcast qui va sortir dans pas long, dans le même studio. C'est sur le gambling sportif et le football américain. J'ai ramassé des gars, on est une petite équipe. Non à venir.
T'as eu leur consentement là, pour les ramasser?
Oui.
Ça marche.
Oui.
C'était pas comme un plaquage dans lequel tu t'es cogné la tête contre eux.
Non, ça, c'est dans une autre vie, ça.
D'accord. Tu vas leur parler du plaquage, là, j'espère, sur le podcast.
Absolument.
C'est bon. Abonnez-vous, likez-nous, allez nous trouver sur Google, Spotify, Google Podcast, pardon, et aussi sur notre site. On a des articles super intéressants. Si vous voulez en savoir plus sur la psilocybine ou la Manita muscaria, allez nous lire. On a des articles là-dessus, c'est facile de trouver. Puis, un gros merci. Merci de nous suivre et de nous encourager. À plus.
Bonne soirée.